les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
C'est donc l'heure de la rencontre avec Tom Mulcair. Bonjour, Tom.
Salut, Yasmin.
Alors, qu'est-ce qui se passe à la santé publique, les cachettes de la santé publique, notamment à Rouyn-Noranda, la direction de la santé publique qui a essayé d'alerter la population qu'il y a plus de cancers du poumon dans la région de Rouyn-Noranda? Ben, cette information, elle a été retirée par Dr Arruda.
Oui, et ça relate directement à une installation industrielle dans cette région-là qui s'appelle la raffinerie Horn. Je connais bien le dossier parce que c'était encore sur nos bureaux quand j'étais ministre de l'Environnement.
Et là, hey, ça fait un moment.
Il y a plus de 15 ans. Donc, cette raffinerie-là a toujours dépassé les normes. Quand c'était sur mon bureau, nous, on avait décidé qu'on serait intraitable. Les règles étaient les règles. Tout le monde devait les suivre. Mais le reste était assez prévisible. L'entreprise commence à donner des signaux. Bon, si vous faites ça, on va tout simplement fermer. Mais moi, je me souvenais que Pierre Paradis avait eu le courage, lorsque lui, il était le ministre de l'Environnement, de tout simplement fermer une usine qui était en infraction à répétition, parce que c'est ce qu'il faut faire. Parce que toutes les autres usines engagent des dépenses pour respecter les normes.
Ça, c'est pas juste envers la concurrence.
Ben, tout à fait, c'est exactement ça. Donc, outre les questions de santé publique et les grandes questions sociales qu'on évoque, ben là, on est en train carrément de jouer dans l'économie. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'ils dépassaient complètement les normes, notamment quant à l'arsenic. Le gouvernement le savait, a choisi de cacher l'information. Maintenant, je prends ça un petit peu avec un grain de sel lorsqu'on pointe du doigt le docteur Arruda, parce que quand même, il n'est plus là dans les yeux du public. Il était là, la personne en avant, le point man en ce qui concerne la pandémie pendant les deux premières années. Donc, je trouve ça un petit peu
Mais Tom, en même temps, douteux. C'est Dr Arruda qui a dit que ce n'est pas en sa qualité de directeur national de la santé publique qu'il demandait que l'on retire cette annexe-là, mais en sa qualité de conseil stratégique du ministre délégué à la santé et aux services sociaux, le docteur Carman. C'est quand même particulier le chapeau qu'il a décidé de porter pour retirer cette annexe.
Oui, mais c'est bien beau de dire ça, mais tout notre système de gouvernement est basé sur la responsabilité ministérielle.
Oui.
Donc, le docteur Arruda était un sous-ministre associé en dessous de la pile. Il poussait ça dans une direction. Il disait, selon les simples raisons, pour plaire à ses maîtres politiques, mais quand même la personne qui est responsable devant le public, devant notre Parlement, qui est l'Assemblée nationale, c'est le ministre. Alors que ce soit Carman à l'époque ou encore Mme McCann, on va savoir qui était encore responsable ultimement, parce que l'autre était même pas le ministre de la Santé. Toujours est-il qu'il y a des gens, des êtres humains, dans le coin de Rouyn-Noranda, et c'est ça l'essentiel de toute cette histoire bureaucratico-politique. Il y a des êtres humains qui étaient plus à risque d'attraper des maladies très graves. Puis on ne leur a pas dit, mais aussi on a détecté, historiquement, on a détecté chez les enfants des niveaux d'arsenic et d'autres métaux lourds dans leur sang. Donc c'est une situation absolument intolérable et ça rappelle la question de la poussière de nickel à Limoilou dans la région de Québec. Donc ça, très rarement, Yasmine, on a un aperçu de ce que c'est d'avoir un gouvernement de droite. Un gouvernement qui essaie de tout tasser, y compris la santé du public, et le sacrifier sur l'autel de « on va aider nos chums dans les compagnies puis dans les industries ».
Mais c'est pas ça la droite,
ça,
Tom.
C'est un exemple.
Ça, c'est comment la gauche veut décrire la droite, mais c'est pas ça la droite.
Ah si, ok,
non,
quand même. Si on regarde où est-ce que le gouvernement peut intervenir pour aider le public le plus, un gouvernement de droite va sacrifier la santé publique sur l'autel, justement, de cette question des investisseurs, les compagnies. Les arguments qu'on nous donne pour augmenter la poussière de nickel dans des quartiers plus des fois favorisés, comme Limoilou, sont, ben écoutez, c'est bon pour l'économie. Hey, c'est pour les voitures électriques, ça c'est un ingrédient dans les batteries. Comme si c'était aux gens de Limoilou de sacrifier leur santé pour que les gens riches puissent avoir des batteries dans leur voiture électrique.
Est-ce que le gouvernement de Pauline Marois était un gouvernement de droite?
Le gouvernement de Pauline Marois elle-même était une progressiste, mais comme beaucoup d'autres, ils ont souvent sacrifié les questions de santé.
Est-ce que Yves-François Blanchet est un gars de droite lorsqu'il a présenté la cimenterie McInnis, qui est un des projets les plus polluants en Amérique du Nord?
Ben, moi, j'ai toujours considéré qu'Yves-François Blanchet était et demeure un gars de droite. Et la cimenterie McInnis est justement un exemple de quelqu'un qui pousse les intérêts des industries et des entreprises privées devant l'intérêt du public et de l'environnement et des écosystèmes, oui.
Mais Martine Ouellet aussi est une personne de droite lorsqu'elle a annoncé l'exploration sur l'île d'Anticosti, l'exploration de gisements pétroliers potentiels sur l'île d'Anticosti. Ça doit être de droite, ça, non, Tom?
Un instant. Voilà. L'ancienne chef du Bloc, elle était où pour l'Anticosti?
Elle était ministre de l'Énergie sous le gouvernement Marois.
Et c'est elle qui a proposé ça, vous êtes sûr de ça?
Oui, elle était à l'annonce avec Pauline Marois lorsqu'ils ont annoncé les explorations sur l'île d'Anticosti.
Ben, en fait, la bonne nouvelle, c'est que ça a été débranché.
Heureusement.
Cette question d'exploration.
Mais comme quoi, ce n'est pas une question de gauche et de droite.
Moi, je me souviens de François Legault qui poussait très fort pour l'exploration pétrolière et gazière sur Anticosti, qui était le tout nouveau chef de la CAQ à l'époque. Je me souviens justement de Blanchet qui avait signé certains papiers en rapport avec ça. Mais pour ce qui est de Martine Ouellet, tu me poses une colle. Mais Martine Ouellet, justement, si elle a approuvé ça, elle était en train de sacrifier des questions de pérennité des écosystèmes et de la biodiversité en faveur des compagnies pétrolières et gazières.
Et ça, c'est une femme de gauche qui l'a faite.
Qui?
Ben ça, ce serait une femme de gauche. Martine Ouellet ne se décrit pas comme une femme à droite, une femme de gauche.
Mais elle peut se décrire comme elle veut. Moi, ce que je suis en train de décrire, c'est une réalité objective. Quelqu'un qui est prêt à sacrifier les générations futures, les écosystèmes, la biodiversité, ça aurait été ça. Mais il faut être de bon compte dans ces trucs-là et mentionner que c'est le même François Legault, même s'il avait répété toutes les sornettes des compagnies pétrolières et gazières, il y a 40 milliards de dollars à aller chercher sur Anticosti et n'importe quoi, mais c'est le même François Legault qui a eu le courage de dire, il a eu le courage de dire il n'y aurait plus d'exploration gazière et pétrolière au Québec, les énergies fossiles, c'est fini ici, et ça a pris beaucoup de courage et de détermination politique.
Ben, c'est encore plus facile quand il n'y en a pas pendant qu'on le fait. Il n'y en a pas d'exploration puis on n'a pas d'exploitation. On rachète des permis qu'on avait déjà donnés, mais ça s'arrête pas mal là.
Oui, mais c'est pour ça que c'est une décision courageuse politiquement, parce qu'il y a un coût associé à ça. Et deuxièmement, c'est pas parce que on n'a pas des trucs en exploitation. On a vu ce que c'était, l'horreur de ce que c'était les gaz de schiste, juste avec les puits exploratoires qu'on a installés. C'était une catastrophe annoncée, et avoir le courage politique de dire non à ça, je pense qu'il faut le saluer. Mais je reviens à la question de départ. Il y a des définitions quand même. Chacun peut se définir. François Legault se dit de la gauche pragmatique ou je ne sais pas quoi. Donc, chacun est libre de s'autodéfinir. Mais est-ce qu'on peut juste s'entendre sans jouer trop dans la définition gauche-droite, parce que ça dépend où on se situe sur l'échiquier politique, où est-ce qu'on va se définir. Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui vont toujours mettre les intérêts des entreprises privées avant les intérêts du public.
Oui, et je suis d'accord.
La raffinerie Horn à Rouyn-Noranda est un exemple. Et oui, la poussière de nickel est un exemple. D'une manière classique, on dit que ces gens-là qui prônent l'intérêt des entreprises privées et des capitalistes avant l'intérêt du public, oui, on définit
mais
ça.
Mais Tom, est-ce que ça ne remet pas...
un politicien de droite.
Est-ce que ça ne remet pas la question l'indépendance du directeur de la santé publique, qu'il ne soit pas un sous-ministre? Parce que le directeur de la santé publique a lui aussi une imputabilité devant la population. Il devrait être indépendant, puis les études scientifiques devraient être indépendantes. Or, aujourd'hui, on voit un flagrant cas d'ingérence potentiellement politique, parce qu'il le fait à son titre de conseiller stratégique du ministre, pour ne pas informer la population. Est-ce que c'est encore plus important d'avoir une indépendance, que le directeur de la santé publique ne soit pas un sous-ministre?
Ben, en fait, oui. Et il y a des exemples comme ça dans l'administration. Mais pour avoir passé une très bonne partie de ma carrière dans la fonction publique québécoise à Québec, donc j'étais 6 ans président de l'Office des professions du Québec, mm-hmm. c'était un niveau de dirigeant d'organisme, donc j'ai une bonne appréciation de qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas à Québec. Et dans mon expérience, c'est le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère, qui, je parle pas des hôpitaux ou des gens qui sont seuls, mais le ministère a toujours eu une administration très défaillante pour exactement ce genre de raisons-là. Ça, c'est un employé de l'État, un fonctionnaire, un bureaucrate, mais qui a un rôle quand même à l'intérieur de l'administration en vertu d'une loi. Il n'est absolument pas vrai qu'il est un conseiller stratégique du ministre. Ça, c'est son staff politique. Vous connaissez la différence. Il y a un ministre qui arrive entouré d'un staff politique qui interagit sur une base quotidienne avec l'administration du ministère. Mais l'administration du ministère, c'est le gouvernement permanent.
Exactement.
C'est les gens qui sont là pour appliquer une loi dans l'intérêt du public. De là à dire qu'ils vont cacher de l'information sur la santé publique, qui est en train, selon les statistiques, d'affecter des gens jusqu'au niveau d'avoir des cancers. On a le droit de cacher cette information parce que la personne décide qu'elle est un conseiller stratégique. C'est ça le problème de base.
On espère qu'on va avoir plus de réponses là-dessus. Merci beaucoup, Tom, et à demain.
À la prochaine.
Bye-bye.